de thème, de sujet, on a parlé de Saint-Esprit. Je vais parler d'un élément basique. La base de toute expérience qui peut se produire dans notre vie, j'aimerais tout simplement parler de la foi. C'est pas nouveau, hein? C'est pas nouveau. Je ne vais pas venir avec des choses nouvelles. J'aimerais vous parler de la foi, et la foi en particulier d'un homme qui s'appelle Abraham. Alors nous allons faire lecture dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4. Nous allons lire du verset 1 à 3, puis pour ne pas trop lire, nous reprendrons au verset... Oh, puis on peut tout lire, hein? Non? Non, ça ferait trop. Alors, Romains 4, verset 1 à 3, puis on reprendra au verset 17. J'allais faire travailler M. Asquith, mais je vois qu'il n'a pas pris son épée. Alors, tu la sors? Romains 4, 1 à 3, puis on reprendra au verset 16. Bah viens là, va, quand tu es un beau gosse comme toi, on ne se cache pas. Ah là, je ne lui ai pas dit, c'est vrai.
Ah ouais, voilà. Priez pour moi, pour voir que je sois rempli d'orgueil dans ma vie. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice.
Le 4 ou 6 ? 16 après.
Après le 3 ou le 16 ? Dans le 16.
En partant de 16, oui, jusqu'au verset 25.
D'accord.
Jusqu'à la fin du chapitre.
C'est pourquoi, le verset 16, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen.
Merci. Paul, l'apôtre qui écrit ces lignes, met en évidence la foi de celui qu'on appelle le père des croyants. Il dit dans son chapitre, que ce soit circoncis, non circoncis, il est le père de ceux qui croient. Et dans la lecture, et c'est un verset que je citerai, le verset 12, on a deux invitations. La première, c'est de marcher sur les traces d'Abraham. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, ne répondez pas tous à la fois. Marchez sur les traces d'Abraham. Attendez, il me fait un coup de pied, là. Voilà, c'est mieux. Marchez sur les traces d'Abraham. Puis, il est question plus loin, nous l'avons lu au verset 16, d'être de ceux qui ont la foi d'Abraham. Et c'est de cette foi d'Abraham que j'aimerais parler tout simplement cet après-midi. Quand on lit le Nouveau Testament, qu'il est question d'Abraham, soit ici, soit dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, on nous montre les exploits d'Abraham, ses triomphes, tout ce qu'il a fait. Une foi extraordinaire, il est parti sans savoir où il allait. Nous sommes des gens compliqués, on veut tout savoir. Mais lui, il est parti simplement sans savoir où il allait. Il faut de la foi, c'est pas vrai ? Non ? Ben oui. Attendez, j'ai perdu le fil de la... Voilà, c'est cela. Et quand on lit la vie d'Abraham dans l'Ancien Testament, on a l'impression de découvrir un autre personnage, parce qu'on le voit dans ses faiblesses, on le voit commettre des erreurs, on le voit de temps en temps même avoir des doutes. On a l'impression que ce n'est pas le même homme que nous présente le Nouveau Testament que celui qu'on a suivi dans son vécu, dans son début. Que s'est-il passé ? Pourquoi ce décalage ? Eh bien, quand on regarde bien, Dieu a retenu d'Abraham sa foi et il a oublié ses faiblesses. C'est grand. Toi, vous ne émerveillez pas. Mais moi, ça me ferait bondir, moi. Hein ? Dieu n'a oublié les faiblesses de cet homme et il a regardé la foi. C'est avec cette foi qui lui a fait surmonter toutes ses faiblesses et qui a attiré le regard de Dieu. Et ce qui est vrai pour Abraham, c'est vrai pour nous. C'est vrai pour nous. C'est vrai que Dieu a ses exigences, nous l'avons chanté tout à l'heure. Mais c'est vrai que Dieu est un Dieu de compassion, un Dieu d'amour. Amour manifesté extraordinairement par la mort de Jésus à la croix. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu surpasse toute chose. Alors, le pardon de Dieu, parce qu'il y a pardon, parce que Dieu oublie nos fautes, il y a pardon. Mais le pardon de Dieu, ce n'est pas une boîte automatique comme quand on va chercher un chewing-gum. Le pardon de Dieu, il est précédé par une action. C'est d'abord reconnaître que nous nous sommes trompés. Reconnaître que nous sommes des pécheurs, que nous avons péché, c'est avoir tout simplement désobéi à Dieu, quelle que soit la forme de notre désobéissance. C'est avoir un esprit de repentance, c'est demander pardon à Dieu. Mais il y a hélas trop de gens qui passent leur temps à faire des actes de contrition, à demander pardon à Dieu, pardon à Dieu, pardon à Dieu, mais qui n'ont pas la foi pour saisir ce pardon. Ça ne suffit pas seulement de dire « Seigneur, pardonne-moi », il faut croire que ce pardon est pour nous et il est acquis par la mort de Jésus à la croix. Et c'est une réalité, c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant et c'est ce qui explique le décalage entre Abraham de l'Ancien Testament et Abraham du Nouveau Testament. Il y a eu la grâce de Dieu entre ces deux actions-là et elle est vraie pour nous. Dieu est prêt à oublier ce que nous sommes, oublier notre passé, oublier notre vie de péché, si humblement nous sommes venus, nous voulons venir au pied de la croix et dire « Seigneur, pardon, je crois que Jésus est mort pour moi sur la croix et je crois en son pardon, je crois en l'efficacité du sang de Jésus qui a coulé à la croix. » Parce que le sang de Jésus, dit l'apôtre Jean, c'est lui qui nous purifie de tout péché. Ce ne sont pas nos actions, ce n'est pas notre moralité, ce n'est même pas notre bonne morale, notre bonne tenue, c'est la foi dans l'œuvre de Jésus à la croix. Et à partir de là, j'aimerais que dans cette lecture, on retienne certains traits de la foi d'Abraham. Dans le verset 17, nous retenons, il a cru à... Non, pas verset 17. Je fais une petite erreur. C'est le verset 3, au début, excusez-moi. Il a cru à Dieu. Et la plupart des versions, et c'est plus clair, nous disent, il a cru en Dieu. Mais ça, c'est pas la foi, c'est de la croyance. Il y a une quantité de gens qui croient en Dieu, et ça s'arrête là, la foi va plus loin. Et Abraham ira plus loin, mais il faut commencer par quelque chose. Et c'est croire en l'existence de Dieu. L'Épître aux Hébreux nous dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que celui-ci existe. Est-ce que nous croyons en l'existence de Dieu? Nous avons chanté un cantique magnifique là, qui a engagé notre prédication en parlant de Job. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mais comment Job a-t-il vu Dieu? Eh bien, si vous lisez la fin du livre de Job, à partir du chapitre 39, 40, 41, ce sont des chapitres magnifiques, où Dieu fait une démonstration de ce qu'est la création. Il explique à Job, et il passe un peu par toutes sortes d'animaux, leur donnant presque des secrets de sa création. Et Job, là, est émerveillé. Et en regardant la création, ce que Dieu a fait, bien, il a vu Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Romains également. Dieu se voit comme à l'œil nu dans la création. La foi, ou la croyance, n'est pas suffisante. Il faut que la foi nous amène plus loin. Nous vivons dans un monde où les gens aimeraient vivre sans Dieu, l'éliminer. Dieu est gênant, rien que de penser qu'il y a un Dieu. Alors on a mis en avant toutes sortes de théories, on bourre la tête de nos jeunes, nos étudiants, avec toutes sortes de théories, telles que celle de l'évolution de M. Darwin. Ben, ma foi, il faut de la foi quand même, pour croire qu'on descend du singe. Vous savez, avec mon épouse, nous sommes d'origine lyonnaise. Nous sommes des Gones. À Lyon, nous avons un parc magnifique, le parc de la Tête d'Or, où il y a toutes sortes d'animaux. Et quand on reçoit quelqu'un à Lyon, si on a un peu de temps, on le conduit au parc de la Tête d'Or. Alors on visite tout ce parc magnifique, et on s'arrête immanquablement devant la cage des singes. Mais j'ai jamais eu envie de dire « Bonjour grand-père ». Non, 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 parce que c'est Dieu mon créateur, il ne descend pas du singe. Et c'est ce que Job a vu. Et c'est ainsi qu'on peut aller plus loin dans la découverte de ce Dieu-là et qui nous amène à la deuxième pensée de notre méditation, cette fois au verset 17. Il est écrit « Il a cru Dieu ». Là, c'est la foi. La croyance, c'est croire en l'existence de Dieu. La foi, c'est croire Dieu lui-même. C'est croire les déclarations de Dieu. Nous avons entendu un témoignage tout à l'heure, et notre sœur a cité des passages bibliques pour étayer son témoignage, étayer sa foi, montrer pourquoi elle a cru, pourquoi elle a avancé. Parce qu'elle a mis sa foi dans la parole de Dieu. Et la foi repose sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est la base de la foi véritable, la foi qui triomphe, la foi qui va de l'avant. Je voudrais faire remarquer qu'Abraham n'a pas toujours été un croyant. Si vous voulez bien tourner quelques pages de votre Bible, faire un peu le ventilateur, nous allons dans le livre de Josué, au chapitre 24. Josué, chapitre 24, verset 2. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, votre père Térakh, père d'Abraham et père de Nakhor, habitait anciennement de l'autre côté du fleuve. » Et il servait d'autres dieux. Donc il n'avait pas rencontré le Dieu qu'il va suivre par la suite. Dieu l'a appelé là dans, où il était, Dieu l'a invité, et Dieu lui a en quelque sorte dit, suis-moi, disant, va-t'en ton pays, et c'est ainsi qu'il est parti par la foi. Dieu a adressé un appel à Abraham. Savez-vous où a eu lieu la première réunion d'évangélisation? La première réunion d'appel. Vous ne savez pas? Ce n'est pas Annecy. C'est dans le livre de la Genèse, dans les allées du jardin d'Éden. Alors que l'homme vient de désobéir, l'homme et la femme, le couple viennent de désobéir, ont essayé de se cacher, on ne va pas entrer dans les détails. Le soir, Dieu est passé pour aller à leur rencontre, ne les ont pas trouvés, il les a appelés. Adam ! Ève ! Pas de réponse. Et Dieu a commencé à appeler l'homme pécheur, parce que là, l'homme devient pécheur. Dieu a commencé à appeler l'homme pécheur dès le jardin d'Éden, dès l'heure de la désobéissance. Mais l'appel de Dieu ne s'est jamais arrêté. Et l'appel de Dieu continue. Et l'appel de Dieu retentit aujourd'hui encore. Et je veux vous dire à quelqu'un qui peut-être est un peu dans la situation d'Abraham, il ne sait pas trop où il en est, Dieu t'appelle cet après-midi. Jésus est venu pour appeler les hommes afin qu'ils viennent à la rencontre du Dieu qui les aime, du Dieu qui a mis tout en œuvre pour leur bien-être, pour leur salut. Il s'appelle le Dieu de grâce. Et cet appel retentit, c'est l'appel de Dieu. Il serait dommage de passer à côté et de ne pas y répondre. Dieu a appelé Abraham. Dieu ne s'est pas limité à appeler Abraham, mais il appelle tous les hommes. Tous les hommes, quelle que soit leur situation. Dans ce passage cité de Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire toutes les générations, toutes les races, quel que soit le rang de notre société sociale, quel que soit ce que nous sommes, Dieu appelle chacun. Écoutez bien, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Il y a le monde. Et le monde est fait de quiconque, un quiconque, de quiconque. Alors si on va chez les Chinois, on va en gronder des quiconques, c'est vrai. Mais c'est assez... l'autre, qu'est-ce que l'auditoire cet après-midi? Mais c'est un quiconque, une quiconque, des quiconques. Nous sommes en ensemble des quiconques. Et l'appel de Dieu s'adresse à chaque quiconque. On a eu l'occasion de faire des réunions avec beaucoup de gens. Mais c'est chaque quiconque qui composait ces foules que Dieu appelle, comme cet après-midi. L'appel de Dieu retentit encore et c'est un appel plein de compassion et plein d'amour. La troisième pensée, toujours verset 17, c'est qu'Abraham crut que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est fort. On ne voit rien, mais Abraham a cru que Dieu pouvait faire des choses extraordinaires, jusqu'à croire à la résurrection de son fils, Isaac. Quand il l'a mené sur le mont Morija, il croyait que Dieu allait le ressusciter. C'est une foi forte, c'est une foi profonde. Et en croyant les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, on revient, comme nous l'avons déjà fait remarquer, on revient au Dieu créateur. Et je voudrais retentir ce que notre frère disait tout à l'heure. Et j'aimerais que nous lisions un passage dans l'Épître aux Éphésiens. Excusez-moi de vous faire tourner les pages. Je vous habitue à la clé ces jours, ben, on s'en passe, pas trouver la serrure. Éphésiens. 2. Ah, c'est difficile à tourner, ces pages fines. Voilà, par verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. J'aimerais m'arrêter sur cette petite phrase. Ayant été créés en Jésus-Christ. Tu peux naître de nouveau. Tu peux venir une créature nouvelle. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Changer manière de vivre. Changer un caractère. On n'a pas trouvé de médicament qui change le caractère. Délivrer de nos passions, de nos chaînes, de ce qui nous tient asservis. On n'a pas trouvé non plus de médicaments. Je vais vous donner un témoignage. Ah bien, monsieur Manamasquat l'a reconnu. J'ai perdu son nom. Tu m'avais invité, j'étais remonté pour le baptême de son épouse. J'étais deux frères à Oulin. Comment ? Voilà. Alors, il y en a un qui appartenait au Seigneur, qui était dans l'église. Et l'autre, mais ma foi, c'était la détresse familiale. Il était tombé dans l'alcool, tombé dans la drogue. La première fois que son frère l'a amené à la réunion, c'était un beau garçon qui faisait, je sais pas, 1m90 peut-être au moins. Hein. Et puis un beau gars, plus joli que moi, vous voyez. Presque aussi beau que toi, tu vois. Mais que je continue ce que je lui ai dit. Mais c'était une loque. Bon, d'abord, il avait des grands cheveux qui pendaient partout, c'est pas le plus grand malheur. Il était voûté, il avait un regard qui était perdu. Il était plongé. Ses parents lui ont fait faire des cures d'intoxication, ont tout essayé sans résultat. Puis il est venu, sollicité par son frère, et Dieu a touché son cœur. Il était changé, transformé. J'ai eu la joie de le baptiser. On avait un petit baptistère, j'ai dû le baptiser en diagonale pour pas que sa tête touche au bout du baptême. Puis il vivait maritalement, donc il a régularisé sa situation. Et après, avec le frère, son épouse a été baptisée. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Comment ? Ah, oui, j'ai pas souvenu. Mais je retiens cela. Ce garçon qui était une épave est devenu une nouvelle création. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Des parents avaient dépensé des fortunes pour venir au secours de ce garçon sans résultat ou pas de résultat probant. C'était provisoire, ça allait un petit moment. Puis c'était la rechute. Mais avec la rencontre du Seigneur Jésus, ce fut une transformation. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Le Dieu créateur. Il est capable de faire les choses qui sont irréelles de les rendre réalité. Les choses qui ne sont pas, elles deviennent réelles. Ça, c'est la foi qui croit ces choses-là. Alors, je peux peut-être m'adresser à quelques-uns ou quelqu'un ou quelqu'une qui se trouve dans une impasse, dans une difficulté et qui ne voit pas la sortie, qui ne voit pas le bout du tunnel. Peut-être même un diagnostic médical. Nous ne sommes pas contre la médecine, absolument pas opposés à la médecine. Mais nous sommes obligés de reconnaître que tout ce qui est humain a une limite. Et quand l'homme dit « je ne peux pas » ou « je ne peux plus », Dieu dit « moi, je peux encore ». Et peut-être que quelqu'un se trouve dans une situation difficile, bien croyez avec la foi que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et que Dieu appelle votre guérison comme si elle était déjà, parce qu'elle a été payée par Jésus qui est mort à la croix du calvaire. Dans ces meurtrissures, il y a le gage de notre guérison. D'autres, peut-être, d'autres situations familiales, ou toutes sortes de situations, vous semblez qu'il n'y a aucune réparation, aucun moyen de s'en sortir. Mais si vous voulez, comme Abraham, mettre votre foi dans ce Seigneur qui change toutes choses, eh bien, peut tout changer dans votre vie. Tu peux naître de nouveau, tu peux devenir nouvelle créature, tu peux avoir une autre façon de vivre, tu peux être délivré, libéré, affranchi, devenir un homme, une femme libre, parce que seul le Seigneur peut le faire. C'est la foi qui peut apporter ces choses-là. On continue ? Eh bien, on continue avec la foi d'Abraham. Cette phrase, j'ai dû la lire dans d'autres versions pour la mieux cerner. Espérant contre toute espérance. Alors, avec d'autres versions, il dit ceci, il n'y avait plus d'espoir, alors il a cru et espéré. De version, là où toute espérance paraissait insensée, il a espéré et s'est cramponné avec foi. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Alors quand on le replace dans son cadre, Dieu lui a fait la promesse d'une postérité. Mais M. Abraham est un jeune homme de 90 ans. 75 ans au début de la promesse. 99 ans, dirais-je. Et la promesse est là. Et quand on lit, permettez-moi d'aller un peu plus loin, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, quand on lit un peu ce que dit Sarah à l'ange qui lui renouvelle la promesse, il n'y a plus de possibilité humaine. Il est dit, même dans ce chapitre 4 des Romains, que le sein de Sarah était mort. Alors, permettez-moi d'être un peu plus loin, elle était ménopausée, elle n'avait plus possibilité de procréer. Et dans la Genèse, en version, il est montré qu'Abraham n'avait plus de désir. Vous voyez l'état de ce couple. Et pourtant, il y a une promesse. Et le temps passe. Mais il a cru. Il y a 100 ans, Abraham est devenu papa. C'est pas beau, hein? Il a espéré contre tout désespoir. Alors il a eu des hauts et des bas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il a eu des moments où c'est plus trop. On ne va pas tomber dans les détails non plus de tout ce qui est. Mais il a cru jusqu'au bout quand même. Et Dieu est celui qui l'a béni. Une foi triomphante. C'est ce que confirme le verset 19-20. Sans faiblir dans la foi, il ne douta point par incrédulité. Ben, je dis quand même qu'il faut être costaud pour une foi qui ne faiblit pas. Si on voulait faire le graphique de notre foi, elle ressemblerait à certaines feuilles de température, avec ce qu'on appelle des clochers, puis des chutes. Il y a des jours, là, on est prêt à transporter toutes les montagnes. N'emmenez pas toute belle montagne de Savoie dans le lac, hein. C'est pas la peine. Mais on est prêt à transporter les montagnes. Et on ne comprend pas ceux qui sont pas là autant de fois que nous. Puis il suffit d'un courant d'air pour que, comme une mayonnaise, notre foi descende. Mais ce n'est pas ce qui est dit d'Abraham, sans faiblir dans la foi. Une foi constante, malgré les épreuves, malgré les questions, une foi constante, une foi qui ne change pas. C'est ça la foi. La foi qui arrive à des résultats, une foi qui ne chancelle pas. Voire même, il est dit plus loin, je ne sais plus quel verset, il est écrit, il fut fortifié par la foi. La foi de qui ? Ah non, pas la foi de sa femme. Sa femme, elle lui a dit, ben, tu ne peux pas avoir de gosse, va vers ma servante. Par la sienne. Et il fut fortifié par sa foi. Et je crois, je m'adresse un peu aux croyants aussi, je crois qu'on a trop souvent besoin de la foi des autres. Ah, priez pour moi. C'est bien que nous prions les uns pour les autres. Mais je me suis rendu compte dans le ministère qu'il y a des gens qui nous demandaient de prier pour eux alors qu'ils n'avaient pas fait pour eux-mêmes. Non, non, il faut que notre foi soit en action. Qu'on ne compte pas toujours sur la foi des autres, mais qu'on ait une foi qui agit, une foi qui va de l'avant, une foi qui triomphe, une foi qui ne chancelle pas, une foi qui ne bouge pas. L'apôtre Paul nous dit, en 2 Corinthiens 13, 5, examinez si vous êtes dans la foi. Voir la température. Avant, autrefois, dans les voitures que nous avions, on avait la jauge pour voir le niveau d'huile. Et si on avait un long voyage à entreprendre, on n'oubliait pas de le faire. Bien, ce serait bien que nous ayons une jauge. Et dans le voyage que nous avons à faire ici-bas, que de temps en temps, nous puissions mesurer le niveau de notre foi. Parce qu'il nous est beaucoup plus facile de mesurer la foi des autres. Combien de fois j'ai rencontré des chrétiens découragés parce que tel frère ou telle sœur était venu les voir et leur avait dit « Je suis tellement là parce que tu n'as pas la foi. » C'est tellement facile de mesurer la foi des autres. Mais ce n'est pas ce que dit l'apôtre Paul. Examinez votre foi. Voir si vous êtes encore dans la foi. Non pas seulement dans la croyance, mais si vous êtes encore dans la foi. Et nous vont pouvoir le faire. L'apôtre Jacques nous dit ceci, entre autres, dans le chapitre 1, à partir du verset 5 de son épître. Il nous dit que celui qui doute est semblable aux flots de la mer, qui sont agités d'un côté et d'un autre, qu'un tel personnage ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose. Une foi qui chancelle, une foi qui doute, une foi qui doute. On retrouve cela avec un homme qui amenait un jour son fils auprès de Jésus, un fils qui tombait dans l'eau, tombait dans le feu, qui était malade. Alors, il formule une prière étonnante. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. C'est paradoxal. Tu crois ou tu es incrédule? Eh bien, je crois que je répondrai les deux, mon général. Il résume parfaitement ce qui peut être notre combat aussi, parce que nous aussi, nous sommes humains. Je crois, mais je crois que tu peux, je crois. Ça ressemble un peu au lépreux qui vient se jeter dans Marc 1,40. Il vient se jeter aux pieds de Jésus. Si tu le veux, tu peux. Il sait que Dieu peut. Il n'y a pas de problème pour lui. Dieu peut tout. Et il est le créateur, il peut le guérir de sa lèpre. Mais est-ce que Dieu veut? Mais la foi ne se pose pas cette question-là. Une foi sans douter. Comme cet homme qui dit, bien, je crois, mais il y a de la crédulité, il y a des doutes en mon cœur. Et je conclurai en mentionnant des personnages qui avaient une grande foi. J'en ai trouvé trois dans l'Évangile. De qui Jésus a rendu témoignage de leur foi. Vous avez une femme cananéenne ou syrophénicienne, selon l'évangile dans lequel on lit, qui vient pour sa fille qui était possédée et qui, avec laquelle il va y avoir engagé une discussion avec le Seigneur. Mais elle a donné une leçon, pas à Jésus, mais au moins aux apôtres qui étaient là. Quand Jésus lui dit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens », parlait d'Israël avec des nations, mais elle dit quelque chose de merveilleux. Mais les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et vous ne croyez pas qu'on pourrait se régaler de bonnes miettes, qu'il y a de bonnes miettes encore à tomber? Et Jésus reconnaît, il dit, c'est une grande foi. C'est un centenier romain qui vient pour son serviteur. Qui dit, mais c'est pas la peine de dire à la maison, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il a donné même une démonstration de sa foi en montrant comment il fait avec ses serviteurs à lui. Et Jésus dit, mais même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Puis je pense à ce lépreux, ils sont venus 10 lépreux au pied de Jésus, réclamer la guérison de leur lèpre. Et parmi ces 10, il y avait un Samaritain. Et les Samaritains étaient considérés comme des étrangers. Jésus lui dira lui-même, il trouvait que cet étranger pour venir et donner gloire à Dieu. Et les trois témoignages de foi déclarés par Jésus, c'était trois étrangers. Ce qui veut dire que tu peux avoir un élan de foi cet après-midi et recevoir ce que tu es venu chercher. Puis, je conclurai en disant, il y a deux personnages dont il est dit qu'ils avaient une plénitude de foi. Plein de foi. Vous les connaissez ? Dans le Nouveau Testament. Étienne, un homme plein de foi, et Barnabas. Donc on peut être plein de foi. Ça semble être des exceptions, mais c'est à la portée de chacun. Alors, je reprends un peu mon introduction. Puissions-nous marcher sur les traces de la foi d'Abraham et faire partie de la génération, de la race qui a la foi d'Abraham, une foi qui ne chancelle pas, une foi qui triomphe, une foi qui va de l'avant. Amen.